des enfants avec la compagnie Tamis.
Alors, est-ce que tu m'entends bien si je parle? Ouais, je vais essayer de... Faudra pas hésiter à nous dire si on parle pas assez fort.
Comment s'appelle votre spectacle?
Le spectacle, il s'appelle Un instant.
Comment avez-vous choisi le nom de votre compagnie, Tamis?
Ça, c'est une bonne question. On voulait pas avoir un mot qui veuille dire quelque chose. On cherchait quelque chose d'un peu plus abstrait. Et on a pas mal cherché, réfléchi. Et puis, en fait, on s'est dit, principalement, cette compagnie, c'est nous deux. C'est nos idées, c'est nos personnalités, c'est notre travail artistique. Donc, on a pris nos prénoms, Simon et Nathalie. On les a inversés. Et on les a mis bout à bout. Donc Nat, Tan, Miss, Sim, Tanis. Voilà, on s'est dit comme voilà. Ça, nous on sait que c'est ça, mais personne s'en rend compte parce que c'est pas du tout évident. Voilà. Et ça veut rien dire, donc par contre, à l'usage, on s'est rendu compte que peut-être quelque chose d'un peu plus prononçable facilement. Parce que là, c'est la plupart des gens, voilà, ils savent pas est-ce qu'il faut prononcer le S, Tan, Miss, Tan, Miss.
C'est pas évident.
Voilà, c'est pas le plus simple.
Vous présentez votre spectacle dans des maisons de retraite auprès de personnes âgées. Pourquoi ?
Eh ben nous, on a commencé par travailler le cirque dans des salles de théâtre. Et puis après, on a eu envie d'aller un peu à l'extérieur, donc on a créé un spectacle dehors. Et puis après, on a eu envie d'aller dans les lieux, voir le public qui n'a pas accès au spectacle. Donc on est allé, on a fait un autre spectacle qui était dans les... On a beaucoup joué dans les médiathèques et entre autres, on a joué dans des EHPAD. Et ça nous a donné envie vraiment d'aller créer un spectacle. Donc on a créé un spectacle, donc là c'est celui qu'on joue en ce moment. Et on va jouer dans les EHPAD. Pas que, on va aussi jouer dans... Hier, on a joué à la Maison Mathieu. Donc c'était une séance tout public, c'était pour tout le monde, pour les familles. Et après, ben, nous on a envie d'aller dans les EHPAD parce qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de spectacles de cirque dans ces lieux. Et puis, ben, c'est des gens qui ne peuvent pas forcément sortir, qui ne sont pas autonomes ou qui n'ont plus les capacités physiques de sortir des EHPAD, des maisons de retraite. Donc, ben, nous, on aime bien aller jouer là-bas. Voilà, chez eux.
Combien d'artistes êtes-vous sur scène?
C'est que nous deux.
Ouais.
C'est le premier spectacle où on n'est que tous les deux. Les trois spectacles précédents qu'on a créés ensemble, on avait une personne qui faisait de la contrebasse avec nous. Ça n'a pas toujours été la même personne. Il y avait toujours une troisième personne,
une musicienne,
qui jouait avec
nous. C'est nous deux.
Combien de temps avez-vous mis pour créer ce spectacle?
On a travaillé sur ce spectacle à environ entre 9 et 10 semaines.
Réparti sur un an. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait tout d'un coup. On a pris le temps de faire des temps de résidence, qu'on appelle, quand on fait de la création. Du coup, on travaillait pendant une semaine, deux semaines d'affilée. Après, on faisait une pause, on faisait d'autres choses. Et puis, on revenait, on se remettait ensemble et puis on retravaillait le spectacle. Mais voilà, après, ça a été... ce qui est une création assez courte pour dans le cirque. En général, souvent, les compagnies prennent beaucoup plus de temps pour créer un spectacle. Nous, c'est aussi parce que c'est un format assez petit. Le spectacle dure 45 minutes et qu'on l'a créé dans les établissements. Donc aussi, on s'est beaucoup inspiré dans les établissements, dans les maisons de retraite. On s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a vécu là-bas. Voilà, on l'a créé assez vite. Et puis, on continue de le créer. On continue de modifier. Même si le spectacle est sorti, on le joue. Bah, en fait, il bouge encore beaucoup.
C'est un spectacle qui n'est pas sorti il y a très longtemps. On a fait la première en novembre 2025. Donc là, on est encore sur les premiers mois de tournée. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui continuent à évoluer aussi encore maintenant.
Est-ce qu'il y a de la musique des fois pendant vos spectacles?
Oui. Alors dans ce spectacle, donc comme je disais, dans les spectacles précédents, on avait une personne qui jouait de la contrebasse en live pendant le spectacle en même temps. Et là, dans celui-là, du coup, on est que deux et nous, on joue pas assez bien des instruments pour pouvoir le faire dans le spectacle. Donc, on a choisi de travailler avec des vinyles. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un vinyle?
Oui.
Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un CD?
Oui.
Okay. Ah. Et ben, du coup, le vinyle, c'est l'ancêtre du CD. C'est un peu plus large, c'est noir.
C'est un grand cercle comme ça, noir.
Comme une crêpe.
Ah oui, je vois.
Voilà. Et on les pose sur un tourne-disque qui tourne et on met une petite
lumière.
On soulève, il y a une petite barre, voilà. Et donc ça, on a pris cet objet parce que il y a un petit effet de nostalgie. Ou pour les personnes dans les établissements où on va, dans les maisons de retraite, ça leur rappelle, ils sont là, ah, tout de suite, l'objet leur parle, un petit peu. Aussi parce que, voilà, le spectacle parle du temps qui passe, un peu des souvenirs, un peu de la mémoire, un peu de tout ça, donc le petit côté nostalgique, ça nous intéressait. Et puis on trouvait ça plus intéressant comme objet musical que de juste appuyer sur play sur un MP3 ou sur un téléphone. On avait envie d'avoir un petit objet pour interagir avec.
Et Simon, il vous dit pas aussi, mais il chante dans le spectacle.
Pas très bien.
Voilà, donc c'est une autre forme d'amener de la musique.
C'est lui qui vient chanter. C'est une chanson différente.
Ça veut dire quoi, nostalgie ?
Nostalgie ?
Oui.
Alors, la nostalgie, c'est...
C'est les souvenirs d'avant. Un peu quand tu es triste de ce qui s'était passé avant.
Voilà, triste ou joyeux, ou c'est vrai que c'est plus souvent un peu la tristesse, c'est quand on se souvient d'un temps passé, de quelque chose, et qu'on se dit « Ah, c'était bien, je me souviens, j'avais fait ça », ou « Mais je suis un peu triste que ce soit plus comme ça ». C'est l'idée de, voilà.
Ouais, c'est bien, c'est bien.
De tourner vers le passé.
Combien de temps par jour vous entraînez-vous ?
Ça dépend un peu. Par exemple, aujourd'hui, on fait le spectacle, et donc on a répété une heure avant de venir, et on va répéter une petite heure
avant le spectacle.
Juste avant le spectacle. Il faut qu'on s'échauffe, il faut qu'on fasse des petits morceaux du spectacle pour être sûr d'être prêt et prête. Et après.
Quand on n'a pas de spectacle, bah, des fois, on peut s'entraîner un peu plus. Après. On s'entraîne plus tous les jours, toute la journée. Ça, on l'a beaucoup fait avant, mais maintenant, on se fait des journées ou des demi-journées où on s'entraîne. Ça dépend les besoins. Et voilà.
Et après, quand on crée un spectacle, comme on a fait pour celui-là, on a une période souvent entre sur une année ou sur deux années, on va faire des semaines de travail, des fois une semaine, des fois deux semaines d'affilée. Et là, quand on fait des journées de création, c'est pas que de l'entraînement, c'est aussi de la réflexion, des essais, des discussions. Mais il y a aussi une part d'entraînement, une demi-journée, donc 2, 3, des fois 4. Il y a des compagnies qui font beaucoup plus, qui font la journée entière en train de...
Dans votre travail, qui vous inspire ? Quel artiste vous inspire ?
Dans notre travail, on s'inspire beaucoup de nos expériences de vie, de nos façons de traverser les choses. Ce spectacle qui parle du temps, et donc on est parti de nous, ce qu'on ressent, ce qu'on envisage. En sortant d'école et quand on a commencé à travailler, un artiste qui nous a beaucoup marqué, il s'appelle Joan Le Guilherme. C'est un artiste français qui fait du cirque très conceptuel et très beaucoup avec des objets. C'est presque de la sculpture, c'est un peu de magie, voilà, il donne vie à des objets, il crée vraiment une espèce de monde fantastique où des bastines prennent vie et puis et une corde s'anime, et, voilà. Donc c'est un travail assez plastique aussi, et voilà, ça nous a inspiré dans son approche, pas forcément l'esthétique parce qu'on fait pas du tout la même chose que lui sur scène, mais plutôt dans l'approche du rapport à la scène et d'une forme d'être là sur scène, faire des choses sans trop chercher à raconter forcément une histoire et laisser l'histoire se raconter tout seul en fait, et voilà, parce que
après par exemple on a travaillé avec un regard extérieur sur le spectacle qui est venu nous aider pour créer le spectacle, qui s'appelle Arnaud Sori, et lui il a une compagnie s'appelle Mathieu Maffi Fondation, et donc bah, par exemple, lui, son travail, il nous inspire beaucoup, ce qu'il fait comme autre spectacle, et donc c'est pour ça qu'on lui a demandé de venir nous aider à travailler sur notre spectacle. Donc, ça, c'est par exemple un spectacle qu'on aime bien.
Un regard à l'extérieur, qu'est-ce que c'est ?
C'est une personne qui vient justement poser son regard sur notre travail, donc on dit comme s'il était à l'extérieur, donc il suit la création du spectacle, et en fait, il vient nous faire le regard que nous, quand on est en train de travailler et de créer le spectacle, bah, on est en train de faire. Donc c'est difficile d'avoir le point de vue du public, le point de vue extérieur. Et donc lui, il vient faire ce regard-là pendant qu'on est en train de créer. Et il va nous aider, il va nous faire des critiques, des retours sur ce qu'on fait. Il va nous aider à réfléchir. Et donc voilà, il vient sur des périodes de la création et il nous aide à créer le spectacle. C'est vraiment cette position d'être à l'extérieur, comme un regard de public.
Comment faites-vous quand vous avez une envie pressante pendant le spectacle?
Oh, wow. Ça, c'est très concret. Eh bien, on se retient, hein. On essaye au maximum de faire ce qu'il faut avant le spectacle, de prévoir, hein, ça c'est sûr. Et puis, en fait, quand même, souvent, avec l'énergie, l'adrénaline, le fait d'être en train de jouer, ben, on pense pas trop à ça.
Vous pouvez pas prendre le relais ?
Hein ? Vous pouvez pas prendre le relais ? Eh bien, nous, tu vois, on est que deux dans le spectacle. On peut pas partir et s'éclipser.
Si Nathalie, elle part au milieu, je peux pas continuer.
C'est rare que dans les spectacles, souvent les artistes, on travaille tout le temps. Enfin voilà, des fois on peut sortir en coulisses. Nous, par exemple, c'est un spectacle qui dure pas très longtemps, il dure 45 minutes sur celui-ci. Et on est tout le temps sur scène. Donc, ben voilà, 45 minutes, c'est facile de prévoir. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Voilà, on serre les dents et on attend la fin.
Avez-vous une ville fixe pour vous entraîner ?
Une ville ?
Une ville ou une ville ?
Une ville.
Une ville. On habite chacun dans une ville, effectivement. On n'est pas des nomades. On a quand même une maison à un endroit spécifique. Mais ce n'est pas le même endroit. Moi, j'habite à Montpellier.
Et moi, j'habite dans la Drôme, un peu plus loin.
Dans un petit village. Donc, on ne s'entraîne pas toujours ensemble. Après, pour travailler sur ce spectacle, on a été pour le coup nomades. On a travaillé dans différents lieux. On a été à Alès, on a été à Bagnols-sur-Cèze, on a été à Nîmes, on a été au Mans, on a été à Cournon, plein de petits villages ou de petites villes pour travailler sur ce spectacle. Et donc ça, c'est parce qu'on avait fait le choix de créer le spectacle dans les EHPAD où on allait jouer le spectacle après. Pour justement comprendre quelles étaient les problématiques, quelles étaient les restrictions en termes d'espace aussi, en termes d'organisation des fois, pour mieux comprendre et puis être au contact du public avec lequel on allait travailler après aussi.
Et après, on s'entraîne des fois dans un lieu où on peut faire du cirque, mais après, on fait plein de choses. Simon, il aime bien faire de la natation, on fait plein de sports aussi qui nous permettent de garder la forme. Mais on s'entraîne que quand on se retrouve pour jouer le spectacle maintenant. On s'est beaucoup entraîné avant.
Comment avez-vous appris à tenir votre coéquipier à bout de bras ?
Alors ça, c'est pas quelque chose que nous on fait beaucoup. Des portées, des choses comme ça, où vraiment la personne elle est en équilibre au bout de nos bras. Nous on fait pas tout à fait ça. Mais on fait des contrepoids, où on est effectivement à bout de bras. Donc on n'a pas tout le poids de l'autre, mais on a assez de poids pour que justement on puisse tenir en équilibre tous les deux. En étant dépendant de l'autre. Et ben ça, c'est comme tout dans le cirque, mais dans tout, en fait, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps à apprendre, à faire des tout petits exercices très simples, enfin très simples, qui au début paraissent très simples, et puis en fait, qui nous apprennent à gainer, à tenir nos épaules, à tenir nos bras droits, nos bras solides, à se toucher, à apprendre à tenir, en fait, tenir l'autre. Il y a tout un, voilà, une confiance qui s'apprend au fur et à mesure. Et donc, ça prend beaucoup d'années. On a fait pas mal d'années d'école avec des professeurs qui nous ont enseigné tout ça. Et ensuite...
On s'entraîne.
Voilà.
On s'entraîne, on répète.
À quel âge avez-vous commencé à faire du cirque ?
Moi, j'ai commencé quand j'avais 13-14 ans. Et toi, Simon ?
Moi, j'ai commencé quand j'avais plutôt 8-9 ans.
Pour avoir une notion, vous avez appris quoi ?
Moi, c'était il y a 30 ans, du coup.
Incroyable.
Et ouais, on a 38 ans tous les deux. Un petit regard de... Ça fait quelques années ouais, qu'on fait du cirque.
Incroyable.
Pourquoi avez-vous suivi une formation de cirque ?
Eh ben, parce que... au lycée, je me suis rendu compte que les études traditionnelles, on va dire... la façon d'enseigner assis à une table, tout ça, ça ne me correspondait pas trop. J'avais beaucoup besoin de me dépenser. J'étais très très pas hyperactif, mais presque, on va dire. Et donc j'avais beaucoup de mal à la concentration, l'attention, les journées, voilà. Donc je me suis dit bon, je vais peut-être pas me lancer dans des études après le bac. Voilà, ça me convient pas trop. Et puis je faisais déjà du cirque du coup en amateur depuis que j'avais 8-9 ans. Et je me suis dit pourquoi pas, ça me plaisait, je m'amusais bien, j'avais des copains. Je me sentais content de créer, de travailler comme ça, de me dépenser. Et donc je me suis dit, essayons de voir si c'est possible de faire des écoles et tout ça, quoi. Et j'ai eu de la chance, il y en avait de l'école et j'ai été pris et j'ai pu continuer.
Un petit peu pareil pour moi, je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Et puis je faisais du cirque aussi en amateur. Et j'ai participé à un spectacle de cirque avec des professionnels dans un festival. Et ça m'a un peu donné envie de faire la même chose, de faire ce métier-là. Du coup, pareil, après le bac, je suis partie faire des écoles de cirque. Et aussi parce que j'avais besoin de me dépenser aussi. J'aimais pas trop rester assise. Donc voilà la combinaison.
Qu'est-ce qui vous a donné la passion du cirque ?
Eh ben moi, je pense quand même que la passion du cirque, elle est venue assez vite, en fait. Du coup, voilà, quand j'avais 8-9 ans, je suis allé voir un spectacle avec mes parents d'une clown qui s'appelait Annie Fratellini. Elle est décédée maintenant. Et c'était un seul en scène, elle était toute seule. Une toute petite femme extraordinaire avec une aura fascinante. Et elle faisait, une heure et quelques de spectacle toute seule avec plein de choses, du clown, du jonglage, de la magie, enfin vraiment plein, du chant, plein de choses. Et je me souviens que j'avais été complètement accroché, fasciné par cette personne, parce qu'elle arrivait à faire toute seule sur scène. Et que déjà à l'époque j'avais dit à mes parents, mais moi je voudrais bien faire ça, ça a l'air trop bien quoi.
Et vous êtes déjà blessé pendant un entraînement ou une représentation?
Eh ben alors, on va raconter une super anecdote. Parce que du coup, on a fait l'interview mardi avec vos camarades. Ils nous ont posé la même question. Et quelques heures plus tard, pendant le spectacle, je suis tombée et je me suis fait mal. Je me suis tapé le tibia sur une de nos chaises pendant un porté. Et ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé de... Alors, ça ne fait pas très mal. Hein. J'ai refait le spectacle hier, je vais le refaire aujourd'hui, il n'y a pas de souci. C'est une petite blessure, mais c'est marrant parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas, qu'on n'avait pas eu une chute comme ça pendant un spectacle qui nous fasse un peu un bobo.
Donc, ça arrive.
Ça arrive.
Ça arrive souvent à l'entraînement parce que on essaye des nouvelles choses, donc on se met un peu plus en danger. Après, on essaye de mettre des tapis, de s'aider, de se faire des parades. C'est quand il y a une personne qui vient nous aider pour pas tomber. On essaye de faire des choses pour se mettre en sécurité, mais ça arrive. Et des fois, ça arrive aussi en spectacle. Après, c'est parce qu'on fait du cirque aussi. Donc, le cirque, c'est un peu le principe, c'est qu'on essaye d'aller chercher le risque et on essaye de faire des acrobaties, des choses qui sont pas faciles et qui, du coup, il y a un petit risque de se faire mal. Nous, on a eu de la chance, on s'est jamais fait des grosses blessures. Mais on a des copains, copines qui ont eu des accidents un peu plus graves. Mais...
On n'a jamais été obligé d'arrêter un spectacle ou on n'a jamais été obligé de ne pas faire des prochains spectacles à cause d'une blessure.
Mais à l'entraînement,
faire des pauses à l'entraînement parce que voilà une petite blessure.
Après, voilà, c'est
c'est du spectacle vivant. C'est un peu comme on disait au début sur est-ce qu'on fait des erreurs en fait. C'est la différence et c'est l'intérêt de ne pas juste regarder un film ou une série. C'est une autre forme et là c'est vivant parce que c'est des gens. Et du coup, comme c'est des gens, il y a le facteur un peu imprévu. Un peu le moment de risque de la rencontre où on est sur scène et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On a travaillé très fort pour savoir ce qui va se passer, mais on est quand même à la merci d'un moment d'inattention ou de juste quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout.
Je vous ai dit ça parce que pendant les vacances, il y en a un cirque à Montpellier où il y a quelqu'un qui s'est blessé. Et comme on a pris la représentation d'après, on a dû attendre. Il y avait 3 camions de pompiers, j'ai pas compris, alors qu'il y avait que 2 personnes.
Ça arrive.
Oui, ça arrive. Et puis il y a des disciplines qui sont certaines disciplines de cirque. Donc si on fait par exemple de l'acrobatie aérienne, donc on est en l'air, y a plus de risques. Si t'es jongleur et que t'es au sol, il y a moins de risques que tu te blesses fort. Mais ça peut arriver des fois... comme tout le monde, hein, des fois c'est des accidents bêtes, tout simples. Dans le quotidien, c'est pareil, quoi. Mais oui, ça arrive. Mais c'est... On essaye de limiter au maximum les accidents, les chutes, tout ça. Mais il y a toujours un petit facteur qu'on ne maîtrise pas complètement. C'est parti du jeu.
On a fait
le tour
des questions, j'ai l'impression.
Ouais.
Merci.
Eh ben merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces questions, toutes ces réponses? Ah.
Un podcast, moi, j'ai
un podcast aussi. Ah, super.
Il sera diffusé pendant le spectacle, le festival,
tout à l'heure. Ah, mais trop bien. Super. On aura le petit lien. Ben merci beaucoup. Merci.
Merci d'avoir été au bout de cet épisode. Nous espérons que cela vous a intéressé autant que nous. Merci et à bientôt.